Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à lire. Depuis le 2 mars 2024, le Cartoon Museum de Bâle accueille une grande exposition consacrée à Dominique Goblet. Elle est intitulée Bafond et elle s'ouvre sur Ostend, son dernier livre chez FRMK. Elle retrace en fait l'ensemble de son parcours artistique, ses carnets côtoient des planches et des grands formats. On explore ensemble les méandres de ces Bafonds en compagnie de Dominique Goblet. Il est au micro de Fred Michel depuis le Cartoon Museum de Bâle.
Bonjour Dominique Goblet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Dans ma bulle depuis le Cartoon Museum de Bâle. Alors aujourd'hui on va parler de Bafond, votre exposition. Qu'est-ce que ça représente pour vous cet événement à Bâle au Cartoon Museum ?
C'est un énorme événement puisqu'il s'agit d'une rétrospective. Ça, c'est une expérience que j'avais encore jamais vécue avec mon travail en galerie ou musée. Et c'est la joie de pouvoir travailler avec un lieu qui te donne une latitude de liberté où l'expérience et l'expérimental peut s'exprimer sur les murs. De façon équivalente à ce que je peux trouver au niveau de la relation aux éditeurs, comme avec, par exemple, Frémok. Voilà, c'est-à-dire, on travaille dans une dimension où c'est vraiment le travail qui va être développé, qui va s'épanouir dans l'espace, qui va être réfléchi par rapport à l'espace. Et à mes yeux, ce qui est intéressant, c'est que ici, l'espace devient, on va dire, maître du jeu de mon travail, et s'efface alors les personnalités, les gens, au profit de qu'est-ce qu'on peut faire d'un travail qui va être lu, vu, perçu, ressenti sur des murs et pas dans un livre. Et voilà. Et moi, je trouve ça, c'est très important. C'est que c'est le dernier maillon de la chaîne d'une lecture et où ce n'est plus l'ego qui est mis en avant, l'ego de l'artiste ou l'ego des gens qui organisent, mais un travail collaboratif dans une perspective de grande chaîne. Voilà.
Et tu l'as dit, la scénographie, elle fait partie complète de l'exposition. C'est carrément une écriture dans l'exposition.
Oui. Alors, ce qui est vraiment un grand cadeau dans cette expérience, c'est que j'ai pu rencontrer Annette en amont, évidemment, de la fabrication de cette expo. Elle est venue passer plusieurs jours en Belgique et on a beaucoup, beaucoup discuté autour de mon travail que j'ai étalé sur les tables de ma maison. Et j'ai pu vraiment lui faire comprendre l'essence de chacune de mes périodes et chacun des travaux dans leur aspect singulier, si tu veux. Et après ça, elle a réfléchi de son côté avec son équipe au dispositif auquel j'ai souhaité ne pas participer. Pas d'une façon... c'est pas que je me sois effacée, ça s'est mis comme ça et pour moi c'était une évidence de céder à un moment le relais au musée. Donc, à l'exception évidemment d'une des pièces qui est celle que j'ai faite en collaboration avec Kai, où le dispositif d'accrochage fait partie intégrante de notre réflexion sur la lecture au mur.
Donc tu n'es pas intervenu dans l'installation à part la dernière salle, c'est ça ?
Voilà. Mais justement, ce qui est assez fascinant, c'est que durant la semaine qui a précédé donc l'ouverture de cette exposition qui se fera demain, on a beaucoup analysé ce qui s'est passé. Et de temps en temps, j'ai pu quand même mettre une petite patte dans les propositions qui étaient faites quand je trouvais que... En fait, je n'ai jamais intervenu sur le dispositif global, mais de temps en temps, je trouvais que l'accrochage au niveau de la séquence pouvait être plus intéressant dans un autre ordre. Mais c'est tout. Et ce qui est vraiment génial, c'est que ça s'est fait de façon très fluide, sans du tout qu'il y ait une personnalité qui est écrasante par rapport à une autre, ou qu'on s'accroche. Voilà, on a simplement travaillé sur des propositions. Si cette proposition fonctionnait mieux, on l'a faite, et puis c'est tout. C'était ni moi, ni le musée. Enfin, évidemment, le musée a pensé le dispositif. Et c'est ce qui est de plus important. Et puis si de temps en temps, il y avait une petite reformulation, c'était fluide et ouvert. Ça, c'est génial, quoi.
Justement, tu parlais d'ordre. Il n'y a pas vraiment d'ordre. On n'est pas dans une exposition chronologique ici.
Ça brasse l'entièreté de mon travail, plus ou moins. Enfin, soi-disant, puisque, à contrario de ce que je pensais au départ, j'avais très, très peur de ne pas avoir assez. Et en fin de compte... j'ai beaucoup trop, en fait. Donc, mais cette expérience, je la vis pour la première fois. Parce qu'en fait, quand tu es auteur, les bandes dessinées, les originaux, tu les gardes dans des boîtes, dans des tiroirs. Et tu n'arrives pas à conceptualiser l'ensemble de ton...
À matérialiser, oui.
Non, moi, je me vis toujours comme une post-ado... enfin, non, pas post-ado, qu'est-ce que je raconte? Comme une post-étudiante... avec une dynamique de festival, de travail à l'arrache et de moyens, on va dire, reliés aux éditeurs alternatifs, voilà, du monde alternatif de la bande dessinée. Ce qui fait qu'en fait, j'ai pas un recensement hyper maniaque. Et quand je suis arrivée ici et que j'ai pu en un coup embrasser un peu l'ensemble de mon boulot, j'ai eu une sorte de révélation, un choc en fait, un choc.
Tout s'est assemblé.
Ouais, un choc de voir que finalement, il s'agit de, enfin, c'est pas juste des briques, il s'agit d'un bâtiment quoi. Le travail que j'ai composé. Il y a une lourdeur, et cette lourdeur, je m'en étais pas rendu compte. Enfin, lourdeur en termes de... Il y a du taf, et ce taf, je m'étais pas rendu compte.
Et tu conserves tout depuis toutes ces années?
Ah ben non, justement, tout ce qui est bande dessinée, je le conserve parce que je trouve que c'est trop dommage de désolidariser des planches, de les vendre... avec le risque que le jour où tu as une réédition, on n'a plus les machines, on n'a plus les bons documents et il faut repartir d'impression. Donc, et puis, je trouve aussi que c'est intéressant de peut-être pouvoir faire des rééditions avec les originaux qui ont vieilli, dont les couleurs ont peut-être maturé. Parfois, je huile le papier, donc il devient plus foncé, des choses comme ça. Voilà, je trouve ça important de garder ça ensemble. Par contre, tout mon boulot qui est à cheval entre bande dessinée et peinture, je le vends plus volontiers parce que souvent je le conçois peut-être un peu plus dans la direction d'une exposition et du rapport éventuel à la vente que de donner priorité au livre. Et en même temps, aujourd'hui, je me retrouve aussi dans un regret parce que, par exemple, ici, j'ai plus rien des hommes-loups. Il y a trois planches, trois peintures. Et c'était vraiment un pan important. Ça a été aussi comme une sorte de tournant. C'est le premier moment avec les hommes-loups où j'ai pu faire la jonction entre mon travail de plasticienne et mon travail de dessinatrice de BD, enfin d'autrice.
Il y a quelque chose qui m'a vraiment plu. Ce sont tous ces carnets-là qu'on découvre dans tous les étages. Là aussi, tu dois en avoir énormément. Tu as tout conservé?
Oui, ça, j'ai tout conservé très précieusement parce que je suis depuis toujours une grande amoureuse de la pratique du carnet. Je me souviens des toutes premières années, enfin, de toute façon, déjà à l'école. Et puis, donc j'ai fait mes études à Saint-Luc, à Bruxelles, en illustration. J'avais déjà une pratique du carnet et une pratique du carnet qui déjà s'émancipait du champ de l'illustration, qui était beaucoup plus autour de écriture, écriture du réel, dessin d'observation, dessin d'imagination, dessin de souvenir. Et en fait, ma première carte de visite, ça a été mes carnets. C'est comme ça que je suis allée voir l'association quand j'ai voulu proposer mon travail dans cette maison d'édition. J'ai pas montré ce que je faisais en BD ou en illu, j'ai montré mes carnets. Parce que pour moi, le carnet, c'est un livre. En fait, c'est déjà la manière de comprendre la page, le rythme,
c'est
les mises en page,
aussi.
Le récit, etc. Et c'est par le carnet que Jean-Christophe Menu est rentré dans mon travail. Par la suite, j'ai eu beaucoup de... J'utilise le carnet dans plein de circonstances, que ce soit pour me souvenir de récits qui me sont arrivés ou que j'ai observés, parfois pour entretenir mes gammes comme on le ferait au piano, parfois en termes de journal intime, de carnet de voyage. C'est génial, le carnet.
Oui, d'ailleurs, il y a un extrait de carnet de voyage quand tu étais à New York.
Oui, New York, Mexique, Bulgarie, Chicago, il y a eu beaucoup de... en Russie.
En tout cas, je trouve vraiment intéressant ce choix de mettre en avant tous ces carnets. Encore une fois, c'est sur plusieurs étages. Donc, et à travers ces carnets, on découvre vraiment tous tes styles, tous tes genres. Donc, ça s'est fait dès le début, ce choix, avec Annette.
Moi, j'ai demandé à Annette si c'était quelque chose qui pouvait l'intéresser. Elle y a tout de suite répondu positivement, mais je trouve que c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus présent dans les expositions de BD, c'est d'avoir les coulisses de... Parce que les auteurs travaillent généralement énormément en carnet et c'est l'endroit où l'écriture est souvent la plus libre et la moins inhibée. Et donc, c'est très fascinant de voir... De quoi, parce que même tu aurais trois doubles pages d'écriture, ces écritures, elles viennent nourrir les récits après. Elles sont des collectes, des banques de souvenirs, des banques de récits, en fait. Et aussi une pratique du dessin qui doit être entretenue, comme on fait des barres parallèles quand on fait de la danse, comme on fait des gammes au piano quand on est... Tony musicien, quoi.
À travers ces carnets et à travers aussi tes dessins, tes tableaux, tes sculptures, on découvre le personnage de Dominique Goblet, ton intimité. Et quel est ton rapport à l'intimité, justement ?
L'intimité traverse de façon extrêmement puissante mon travail. Depuis toujours, je pense que j'ai commencé la bande dessinée par une force nécessaire. De raconter des traumas liés à l'enfance et à des violences familiales qu'on peut lire notamment dans Faire semblant, c'est mentir. Ce caractère autobiographique que dans lequel j'ai plongé à travers ce récit, j'ai pensé pouvoir l'abandonner totalement parce qu'après Faire semblant, c'est mentir, je voulais m'éloigner de la veine autobiographique. Aussi parce que la période avait fait de l'autobiographie un genre. Et pour moi, dès que les choses deviennent extrêmement codifiées et genrées, il est temps de s'en éloigner. Et puis j'avais, me semble-t-il, résolu une problématique personnelle en créant ce récit et en réussissant à transformer, à faire d'un matériau personnel une dimension plus narrative, distanciée. Ce récit est venu par boucle, je ne vais pas dire totalement résoudre ces traumas, mais presque, en fait, transformer le schéma mental. C'est-à-dire que le cerveau va s'attacher au nouveau schéma. Et si tu fais d'un matériau de vie un récit dans lequel tu trouves de la puissance et de la beauté, et donc du plaisir, ton cerveau va s'attacher à cette nouvelle lecture. C'est assez incroyable. Et donc, je me suis par la suite volontairement éloignée de la veine autobiographique. Mais en fin de compte, je me rends compte que dans mon travail, je vais tout le temps à dessein chercher à reconnecter avec des formes de inconscient qui permettent de travailler un récit où les choses ne sont pas trop maîtrisées. Et donc, d'accepter de travailler avec des soudaines obsessions dont tu ne sais au départ d'où elles sortent et à quoi elles servent et à quoi elles vont se destiner. Et puis, voilà, les laisser venir en accueillant ces motifs où, voilà, par exemple, je présente ici un travail autour des forêts sombres. Il y a des personnages qui se sont invités dans ce paysage qui était déjà en amorce dans Ostende. Irène, une femme qui se déshabille sur la plage, et une majorette qui est devenue un personnage super important. Et c'est vrai que ces deux personnages, par exemple, j'ai pu les laisser émerger dans mon récit sans au départ trop savoir pourquoi elles s'invitaient, et finalement me rendre compte qu'elles racontaient des choses sur les épisodes de rupture que je venais de traverser, et qu'elles étaient là un peu comme dans un rêve ou un cauchemar pour te permettre de résoudre des conflits intérieurs. C'est juste incroyable, parce que ça, c'est comme une énergie qui circule entre le fait de projeter des choses dans l'art et travailler avec des motifs narratifs un peu inattendus, et puis que ces motifs narratifs viennent rejoindre une lecture que tu te fais, une lecture personnelle qui t'aide à comprendre mieux ta vie et quelque part à devenir une meilleure personne. C'est juste ouf, quoi.
C'est magique. C'est une révélation, en fait.
Oui, c'est ça, exactement.
Il y a quelque chose aussi qui est important pour toi, c'est le travail en équipe. Alors tu en as parlé avec Annette et le travail autour du musée d'exposition, mais tu travailles régulièrement en équipe. Tu as travaillé avec Dominique Théâtre, Kai Pfeffer, on va en reparler rapidement aussi. C'est important aussi de t'éloigner du travail un peu solitaire et de partir vers d'autres horizons en travaillant avec d'autres personnes.
Je n'ai pas planifié ça. Et d'ailleurs, j'ai toujours pensé au départ que j'étais pas du tout faite pour les collaborations. Elles se sont mises souvent par magie, et soit par une proposition, soit par une rencontre un peu époustouflante, voilà. Et ou soit par une forme de nécessité, comme entre ma fille et moi. Mais les collaborations, un peu comme ce que je disais juste avant sur l'inconscient, les collaborations ouvrent des portes vers la non-maîtrise, état que je recherche pour la création.
Et la contrainte aussi, tu aimes bien peut-être
la contrainte. Mais qui sont aussi des formes de zones incertaines qui forcent la poésie. Et ce qui est intéressant dans les collaborations, c'est que tu rencontres une personne qui a de préférence un niveau similaire au tien, ni plus fort ni moins fort, mais qui va ouvrir des portes que tu n'irais jamais pousser par toi-même. Et j'ai une petite théorie qui vaut ce qu'elle vaut, elle est sans doute foireuse, mais j'aime bien m'y raccrocher. J'ai toujours eu le sentiment que pour faire œuvre, il fallait travailler, il fallait ce dosage un peu savant de 40% de maîtrise et 60% de forme de handicap, de fragilité, de non-maîtrise. Voilà. Et quand on arrive à travailler avec ce dosage, on peut faire émerger...
N'importe quoi.
Oui,
n'importe. Tout et n'importe quoi.
Oui, et surtout le grand inattendu.
L'accident, en fait. Ouais.
L'accident légèrement maîtrisé, qui est un peu le... Enfin, qui crée des formes de jouissance artistique, de transe.
Avant de conclure, est-ce qu'on pourrait parler en quelques instants d'exposition, la partie exposition, la dernière salle où tu as travaillé avec Kai Pfeffer?
Oui, donc la dernière pièce de cette exposition est une installation en une installation collaborative entre Kai Pfeiffer et moi-même. Et ça part d'une thématique autour des rencontres amoureuses sur site internet. On a fait un premier bouquin très expérimental où on a travaillé à distance sur un dispositif narratif assez éclaté autour de cette thématique, donc. Et puis on est parti d'une des planches centrales du livre, qui est le jardin des candidats, pour développer autour des motifs de ce jardin de multiples expos. Donc on a fait une dizaine d'expos, et à chaque exposition, on a travaillé avec le lieu. Plus seulement une exposition de dessins, et certainement pas de bande dessinée, mais vraiment de lecture avec des objets, avec des céramiques, avec des dessins. Les dessins pouvaient être travaillés sur des supports très polymorphes. On a vraiment toujours essayé de déconstruire tout ce qui s'attache au code de l'exposition avec un dispositif complètement éclaté. Beaucoup d'humour, de préférence et de l'ambivalence. Ça, c'était nos axes d'approche.
Mais la finalité, c'est de raconter une histoire.
Oui, alors, il s'agit de raconter un récit, mais qui n'est pas forcément linéaire, et de constituer de nouveau une sorte de banque de...
Un corpus.
D'images qu'on peut... après agencé de façon complètement différente en fonction des espaces. Et ce qu'on a recherché in fine, c'était de pouvoir partir de la bande dessinée vers l'exposition et enfin refaire le chemin inverse. Maintenant, notre livre « Le jardin des candidats » vient de sortir, et ce livre, c'est le réagencement des pièces qui ont servi à l'expo et qui cette fois reviennent vers le livre, agrémenté de planches de bande dessinée qu'on est venu cimenter, dont on est venu cimenter les pages du bouquin. Voilà. Je trouve que ça, c'est comme un aboutissement pour moi dans mon travail, c'est de pouvoir vraiment trouver des formes dynamiques pour passer de la bande dessinée aux arts plastiques, revenir à l'un, revenir à l'autre, et ne plus travailler « Ah, maintenant je suis dans ce champ, maintenant je suis dans tel autre. » Il faut que vraiment les choses soient plus poreuses, quoi, les frontières soient plus poreuses entre les genres.
Et en laissant la visiteuse et le visiteur acteur aussi de ce qu'elle voit.
De se faire aussi sa lecture dans le sens qu'il veut, de plus imposer une lecture comme on a parfois dans un livre, et voilà, il faut commencer de la page 1. Il pourrait y avoir des livres qui fonctionnent sur un autre cheminement. Je trouve ça super intéressant.
Ça sera le sujet d'une autre rencontre. Merci beaucoup Dominique Goblet pour cette balade dans les bas-fonds.
Merci à toi.
Voilà, j'espère qu'on vous a donné envie d'aller voir cette formidable exposition. Elle se tient jusqu'au 26 mai prochain. Vous avez un petit peu de temps, mais enfin, ne traînez pas trop. C'est donc au Cartoon Museum de Bâle.
Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.